There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Aujourd'hui, on va parler de référencement, mais avant ça, je voulais vous annoncer la disponibilité de l'expérience Catching. Donc l'expérience Catching, c'est un événement virtuel qui a été créé par Geneviève Gauvin, que vous connaissez peut-être, qui est une entrepreneure québécoise. Si vous ne la connaissez pas, vous aurez le plaisir de la découvrir ce mercredi dans Build Yourself. Donc Geneviève a créé cet événement, elle a regroupé 14 experts pour partager de manière totalement gratuite 14 stratégies, chacun sa spécialité et chacun une stratégie à partager pour développer son business. Donc c'est organisé sur 7 jours, du 8 au 14 février, avec 2 vidéos par jour. Ce sont des vidéos qui durent en moyenne 20 minutes, pas plus, donc ça vous permettra d'avoir un contenu qui se consomme très rapidement. Et donc on aborde le pricing, le storytelling, le membership, on parle d'email, on parle de cycle menstruel et de business, on parle de visibilité. Alors moi j'interviens sur le thème du podcasting bien évidemment, mais plus précisément sur les interviews. Et je partage une stratégie pour décrocher des interviews sur des podcasts, qu'on soit podcasteur ou pas. Donc ça s'adresse à tout le monde. Si vous êtes entrepreneur, que vous m'écoutez, que vous n'avez pas de podcast, bien sachez que vous pouvez malgré tout utiliser les podcasts pour vous faire connaître et faire connaître votre business. Donc je vous invite à vous inscrire, le lien est dans les notes de cet épisode, c'est totalement gratuit et vous allez pouvoir avoir 14 vidéos avec 14 stratégies vraiment prêtes à l'emploi, faciles à mettre en place, qui vont vous aider à vous faire connaître et à générer plus de chiffres. Alors pour en revenir à l'épisode du jour, j'ai accueilli Maïté que j'ai découverte via mon programme Build Your Podcast puisqu'elle fait partie des membres, donc ça m'a permis de découvrir son travail et ce qu'elle faisait, et je suis totalement fan, je suis fan de Maïté. je n'ai pas honte de le dire, c'est une femme qui est hyper rayonnante et qui a plein de connaissances, plein d'idées géniales. Donc je l'ai fait intervenir pour vous partager ses meilleures astuces pour être première sur Google. Dans cet épisode, vous allez découvrir eh bien, comment on vend un site internet et combien ça peut rapporter. Elle nous partage quelques astuces pour améliorer le référencement de notre site, quelles pages sont indispensables, une astuce vraiment méconnue pour être première sur Google sur un mot-clé plutôt facile à utiliser. On parle également de petites communautés sur Instagram et de gros revenus. Et plein d'autres choses encore. Alors vous allez voir, on aborde des sujets très variés, mais je pense que c'est ce qui fait que le contenu est vraiment très riche. Donc je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bon, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va au top, vraiment au top.
Très bien. Ça m'étonne pas. Bien sûr, tout le monde a des jours avec et sans, mais à chaque fois que je te vois, t'es très pétillante et très souriante. C'est aussi ce que j'apprécie chez toi.
Merci. Je fais en sorte, en tout cas, tu vois vraiment que ça aille et voilà. Ouais. Et puis il y a des jours quand ça va moins bien, je prends du repos et ça va mieux après.
Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que la plupart du temps, t'es de bonne humeur parce qu'en plus, tu te lèves très tôt. Donc, tu mets des stories très tôt. Donc, moi, quand j'ouvre mon téléphone le matin et que je vais sur Insta, je vois tes stories et là, j'ai le grand sourire. Ah, c'est cool. Et je me dis, ouais, ça fait du bien d'avoir des good vibes comme ça.
C'est gentil. Bah, ça fait toujours plaisir à entendre, tu vois, parce que bon, après, tu te rends plus compte, toi, au quotidien, comment t'es.
C'est vrai. C'est gentil. Bon, dis-moi ce que tu faisais avant d'être consultante en SEO.
Alors, avant de faire du SEO, moi, j'étais commerciale de métier. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait longtemps en tant que salariée.
Ouais.
Vraiment, dans l'univers du commercial, j'ai même commencé, ça, j'en parle pas souvent, mais j'ai commencé en étant responsable dans une boutique de téléphonie. Rien à voir.
Ah ouais. C'est clair.
Voilà. Donc ouais, voilà ce que je faisais. Et donc, commercial pendant longtemps, après sur commercial terrain, tu vois, essentiellement. Ouais. Et puis ensuite, bah, l'univers du web est arrivé. Et alors là, révélation.
Et comment tu as découvert les blogs? Parce que tu as commencé par des blogs, il me semble.
Oui, j'ai commencé par des blogs. En toute honnêteté, c'était parce que je voyais bien que j'en avais marre de ma vie de salarié. Et je trouvais assez incroyable, quoi. Je sais pas, l'univers du web, ça m'intéressait. Et j'ai vu des vidéos, alors à l'époque, de la promotion pour Blogueur Pro. La formation Blogueur Pro, voilà, d'Olivier Roland. Et je me suis dit, bon, ok, allons-y. J'avais bien une idée en me disant, on doit pouvoir monétiser des choses, on doit pouvoir faire des choses sur le web, l'avenir, c'est le web. Et voilà, je suis rentrée dans le blogging comme ça, sans savoir si ça allait me plaire, sans savoir que j'allais être passionnée après par la rédaction web, sans savoir que le SEO, ça allait devenir le truc qui me fait kiffer, quoi.
Et c'était quoi tes premiers blogs? Genre, c'était sur quelle thématique?
Alors, j'ai eu plusieurs blogs, hein, franchement. Le plus gros blog que j'ai eu, c'était sur la parentalité, enfin les jeunes mamans. Voilà, la grossesse, la maternité, mais vraiment, voilà, avec des jeunes enfants. Ça a été le blog principal où, en tout cas, j'ai mis toute mon énergie.
Ouais.
Et après, franchement, bon, y en a qui n'existent plus, il y en a d'autres qui existent encore. Je pense que quand on fouine, on doit trouver. j'ai eu un blog sur le commercial, justement, le commercial terrain.
Ouais.
Rapport à mon activité, j'ai eu un blog sur les freelances. J'ai créé des blogs sur. J'ai même essayé de faire du dropshipping. Ça m'a pas plu. Voilà. Et j'ai même sur les femmes ambitieuses. J'ai testé plein de choses.
Et c'est à cette occasion que tu as découvert le référencement. Et à quel moment tu t'es dit, j'adore ça. J'ai envie de me spécialiser là-dedans.
Quand je me suis rendu compte que sur le blog maternité que j'avais. Que quand j'ai commencé, j'avais déjà écrit pas mal de textes, tu vois, pour ce site-là, mais j'avais pas de stratégie à proprement parler, je savais pas où j'allais. Et quand j'ai compris qu'on pouvait optimiser ces textes pour être bien vu sur Google, et que j'ai appliqué, et que ça a marché, et que j'ai vu mon trafic décoller, et que j'ai compris vraiment, j'ai compris ce qui se passait dans la tête de Google, je sais pas. Et là, je me suis pris de passion, quoi, vraiment. Et j'ai trouvé ça fantastique de pouvoir retravailler tous mes textes, et que ça marche, quoi. En fait, j'ai vu des résultats hyper rapidement, en 15 jours, 3 semaines. Des textes qui passaient en première position ou deuxième ou troisième. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et puis après, ben, pour monétiser un site internet, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du trafic. Voilà.
Et du coup, est-ce que c'est ce site sur la maternité qui a généré à peu près 60 000 visites mensuelles après un an, à peu près 18 mois, il me semble? C'est celui-là?
Voilà, tu sais tout, Safia, c'est ça.
Et c'est celui-là aussi qui t'a rapporté à peu près 40 000 euros annuels.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ok, génial. Et du coup, tu vendais quel type de produits sur ce blog?
Je vendais plusieurs e-books. J'avais fait des e-books. J'ai commencé par ça, hein, par des e-books. Et puis ensuite, j'ai fait des petites formations. Quand je dis petites formations, elles étaient vendues moins de 100 euros. Donc voilà, une formation à une cinquantaine d'euros et une autre 90. Voilà, donc je vendais ça. Et après, j'ai surtout utilisé ce site-là pour avoir des partenariats ou... J'ai créé des choses à part qu'on ne voit pas forcément partout et je me suis écoutée. C'est peut-être le côté commercial, je ne sais pas, qui est revenu, mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire et voilà.
C'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper fascinant. C'était combien de temps, ça?
C'était franchement, hein, c'est récent. Là, on est en début 2021. C'était fin 2017.
D'accord.
C'était 2017-2018 et après, j'ai continué 2019, etc. Et j'ai vendu le site l'année dernière.
Et pourquoi tu as décidé de le vendre?
Parce que je trouvais que mon cœur n'était plus dans ce site.
Ouais.
En fait, mon activité sur le SEO me passionnait tellement que je me sentais trop éloignée en fait, de ce site-là. Et j'avais envie de me consacrer entièrement à mes clientes après et puis à mon activité d'aujourd'hui. Donc, et c'était une période qui a été géniale parce que j'ai vraiment beaucoup expérimenté avec ce site et les autres sites que j'ai créés. Mais voilà, c'était fini après.
Mais du coup, je me pose la question, quand tu veux vendre un site, est-ce qu'il y a des sites où tu peux acheter un site ou tu vois comment ça se passe finalement?
C'est hyper intéressant. Il faudrait peut-être que j'en parle davantage. D'ailleurs, ta question est super, Safia. Mmh. Parce que, en effet, moi, je savais pas comment faire. Quand je me suis dit, ce site-là, il est génial. Enfin, ça me rapporte des revenus récurrents. C'est super, mais je m'y reconnais plus. J'ai envie de passer à autre chose. Comment je fais? Eh bien, j'ai tapé comment vendre un site internet sur Google. Et d'ailleurs, oui, alors si quelqu'un veut se positionner là-dessus, il y a de quoi faire, je pense. Hein. Et j'ai trouvé quelques réponses et il y a des sites spécialisés. Non, c'est pas vrai. Il y a des sites qui existent, mais qui, franchement, laissent un peu à désirer. Désolée pour les propriétaires de ces sites-là. Et c'est comme des plateformes un peu comme le bon coin, un peu comme le bon coin du web, quoi. Voilà.
D'accord. Et sans indiscrétion, si tu veux pas me donner le prix exact, tu peux me donner une fourchette. Mais du coup, combien tu l'as vendu pour qu'on ait une idée à peu près à 60 000 visiteurs mensuels? Combien ça se vend, ce genre de site?
Ouais. Je l'ai vendu entre 20 et 50 000. Voilà.
D'accord. Ok. Bah, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais pas à ça. Ça me donne des idées. Je pourrais vendre mon site plus tard.
Ah, ben oui, voilà. Écoute, si t'as besoin de conseils à ce moment-là, tu me fais signe.
Voilà. Si jamais un jour je décide de changer, effectivement, je sais que j'ai cette porte de sortie.
Il y a de tous les prix, en fait, si tu veux, sur la vente de sites. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Souvent, moi, de ce que j'ai vu, pour avoir expérimenté, j'ai eu plusieurs acheteurs qui se sont positionnés. Et bien sûr, c'est le jeu, comme quand tu vends une maison, comme quand tu vends une voiture ou autre. On va te dire, ah, mais non, le prix que vous demandez, c'est trop cher. Il y a ça qui ne va pas. Bon, c'est le jeu. Ouais. Et en fait, j'ai compris que c'est aussi le prix. Il y a deux choses. Hein, le prix que toi, en tant qu'acheteur, tu es prêt à mettre pour avoir un site qui génère déjà 60 000 visiteurs par mois, qui a déjà plus de 150 articles et que tu vois un potentiel derrière. Et puis, il y a le prix de quand tu vends, à combien tu es prêt à le céder, quoi. Et c'est un mix des deux.
Ok, mais du coup, tu vends le site tel quel. Et donc, c'est eux qui reprennent tout comme tu l'as laissé. C'est un peu ça.
En fait, il y a plusieurs. Je sais qu'il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, moi, j'ai vendu le site tel quel avec les infoproduits que j'avais créés. Pas tous, certains. Ça faisait partie de la négociation, en fait.
Ouais.
Et de la même manière, il y a aussi le droit à l'image, parce que moi, sur ce blog, je parlais en tant que Maïté de tel site. Et je le mentionne pas juste parce que aujourd'hui, il m'appartient plus et que ça fait partie
C'est normal.
Voilà, du contrat, entre guillemets. Et donc, j'avais autorisé à ce que mon image soit encore utilisée. Quand je dis mon image, c'est mon nom et les photos que je pouvais avoir. Il y avait peu de photos, mais voilà. Durant 3 ou 4 mois, je ne sais plus ce qu'on avait
compris. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est intéressant. En tout cas, merci pour tout ça. Je n'avais pas prévu qu'on parle de tout ça, mais tant mieux. Je suis contente qu'on l'ait fait, puisque c'est hyper inconnu. Enfin, ce n'est pas un truc dont on parle hyper souvent, tu vois.
Non.
Donc, je trouve ça cool.
Ouais.
C'est une bonne chose. Bon, alors, et du coup, quand est-ce qu'est né Maïté Consulting?
Alors, Maïté Consulting, ça, c'est né en juin, c'est ça, juin 2020.
D'accord.
Disons c'est que ce site-là, ce site-là est né à ce moment-là. Toutefois, après moi, le référencement naturel et mes services existaient déjà avant. Et c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, il faut quand même que que j'ai mon site de la même manière.
Tu montres l'exemple.
C'est ça. Même si le bouche à oreille fonctionne bien, même si je suis demandée, etc., il faut quand même que quelque chose existe, quoi. Voilà.
D'accord. Ouais. Donc c'est hyper récent, mais enfin, je trouve ça bien. Ça montre aussi que oui, c'est bien d'avoir un site, mais c'est pas indispensable pour commencer à avoir des clients et commencer à faire des ventes. Donc, c'est une excellente chose.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, après, je trouve qu'avoir un site, c'est une part de crédibilité. Et comme le fait d'être bien référencé, c'est gage de crédibilité aussi. Mais on peut tout à fait, et je pense que tu en connais aussi, des entrepreneurs qui se sont lancés sans avoir de site internet. Avec un peu par hasard, quoi. Enfin, pas par hasard, il y a quand même des compétences et de l'expertise et tout ce que tu veux. Mais c'est pas du tout obligé. T'es pas obligé d'avoir un super design au top. T'es pas obligé d'avoir tout ce qui va bien, tout ce qui serait rassurant pour se lancer.
Carrément. Et du coup, toi, ton offre, ta mission et ton offre, c'est d'aider les entrepreneurs, alors que ce soit des entrepreneurs du digital ou qui vendent des produits physiques, qui ont des boutiques, des e-shops, à être première sur Google. C'est le nom de ton offre et j'adore. Je dois te le dire, je trouve ça trop bien trouvé. Première sur Google, ça en jette. Ça attire l'attention et tu vois, ça donne envie d'en savoir plus.
Ouais, écoute, je suis contente que tu me dises ça. Après, au-delà de ça, c'est vrai que le nom s'est un peu imposé à moi. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple finalement?
Ouais.
Oui, mon offre aujourd'hui c'est première sur Google. Donc comme son nom l'indique, j'accompagne les femmes entrepreneurs à se positionner en première place sur Google, à dominer leur marché de manière organique et naturelle et en étant très spécifique sur quelles sont leurs valeurs ajoutées, ce qu'elles proposent, à qui elles s'adressent. Il y a tout un travail qui est vraiment très important et qu'on voit, dont on ne parle pas forcément en référencement naturel, mais qui est sur la stratégie, quoi. La stratégie SEO, l'avant de rédiger, pour moi, c'est hyper crucial et c'est là où tu fais la différence et c'est là où tu évites de te disperser et d'écrire dans le vent.
Complètement. Est-ce qu'il y a des fondamentaux pour toi là, si voilà, il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas prêté attention à leur référencement pour le moment, est-ce qu'il y a quelques petites étapes que mes auditrices peuvent mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer un peu tout ça?
Oui, il y a des bases dans tous les cas pour le référencement naturel. Alors, on va partir du principe que le site est déjà existant.
Oui.
Voilà. Si tu as un site qui est déjà existant et que tu veux améliorer ton référencement naturel, moi, je vais te conseiller de porter attention à trois choses. Première chose, ça va être la structure de tes textes. Peut-être que tu ne sais pas qu'il faut mettre du balisage. On appelle ça du balisage en référencement naturel. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aides Google à comprendre comment ce que tu dis dans ton texte, et pour ça, il faut mettre des sous-titres. Donc, baliser, en fait, lui montrer le chemin, montrer la voie sur comment est écrit ton texte. Donc, faire du balisage, c'est ce qu'on appelle aussi les titres, les sous-titres. Tu entendras peut-être parler H1, H2, H3.
Donc, ouais.
C'est mettre une structure de base sur tous tes textes, toutes tes pages. Sauf la page contact, tu peux t'en passer.
Oui, ça, je pense que c'est c'est un peu la moins travaillée, tu sais. C'est...
Voilà, on va dire que ça passe. Ensuite, autre chose, ça va être de réfléchir à une stratégie, en fait, de te poser 2 minutes et de te dire, OK, alors mon site internet, moi, je propose tel service, par exemple, je ne sais pas, je suis web designer. Donc, je suis web designer, quels sont les services que je propose exactement? Tu listes. Tu notes vraiment tout ce que tu fais, à qui tu t'adresses, qui sont tes clients préférés, est-ce que c'est des entreprises, est-ce que c'est des particuliers, est-ce que c'est des gens qui lancent leur activité, est-ce que c'est... Bon, tu listes. Et à partir de là, tu vas vérifier quand même si techniquement sur ton site, tu as bien des pages qui parlent bien de tes services d'aujourd'hui, parce que parfois ça change aussi et on ne réactualise pas toujours. Et se poser la question, est-ce que... Je parle bien de tous mes services sur l'ensemble de mon site. Est-ce que on peut me trouver Et donc, pensez aux mots-clés. Après, les mots-clés, c'est un gros pavé, c'est un gros morceau quand même en référencement naturel. Donc, on peut y revenir après. Mais déjà, voilà, ça, le balisage, le fait de bien parler de tous tes services. Et puis après, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en SEO? Je pense que déjà, c'est la base. Et après, sinon, ce n'est pas vraiment du SEO, mais moi, je trouve ça hyper important, c'est le rédactionnel. C'est la manière dont tu écris. Il faut que tu donnes du contenu riche, évidemment, pas du contenu creux. Pour moi, c'est crucial pour le référencement naturel parce que Google va vite le voir, en fait, si ce que tu écris, vraiment, il n'y a pas de sens. Les gens s'en vont, restent que 10 secondes sur ta page. C'est un signal à Google qui dit problème. Demi-tour, ne restez pas. Donc, il faut écrire du contenu de qualité où tu donnes vraiment des informations. Et là, Google le verra aussi. Les gens qui restent longtemps sur une page, c'est un signal positif pour Google et ça aide au référencement.
Ouais, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'il y a des plateformes que tu ne recommandes pas pour avoir un site internet? Parce que je te pose cette question puisque je pense à Wix, qu'on a très souvent pas recommandé en matière de référencement. Mais alors, moi, je suis restée sur le Wix de 2016-2017 et je ne sais pas si ça a évolué depuis. Donc, je voulais te demander ce que tu penses de cette plateforme et si les personnes qui sont actuellement sur Wix peuvent malgré tout avoir un bon référencement et être première sur Google.
Très bonne question, Safia, parce que je la reçois souvent. C'est une source d'inquiétude profonde chez les gens qui sont sur Wix ou d'autres plateformes. Alors, pour moi, le meilleur, si tu as à choisir, tu prends WordPress.org. Dans tous les cas, c'est parce que c'est plus personnalisable, parce que le site t'appartient, tu fais ce que tu veux sur ton site. Donc, et puis, tu peux faire plus de choses d'un point de vue SEO technique, quoi. Donc, ça, ça serait la base. Après, si ton site est sous Wix, pas de panique. C'est pas grave. voilà, tu peux quand même travailler aussi ton référencement naturel. Va pas tout changer, tu vois. Si le référencement naturel, c'est pas une priorité du moment pour toi, ne va pas migrer de plateforme de suite. Tu peux très bien faire du référencement naturel et être premier, même en étant sous Wix. Donc, pas
super
de panique.
Ouais. Très bien, je suis contente que tu aies répondu à ces questions. Et du coup, est-ce que c'est indispensable d'avoir un blog pour être première sur Google?
Dans ma vision, oui. Ça, c'est ma vision à moi, c'est dans ma méthodologie. Pourquoi? Parce que selon moi, le blog, c'est l'espace idéal pour pouvoir, justement, on parlait de mots-clés tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, c'est l'espace idéal pour pouvoir t'attaquer à différents mots-clés et des mots-clés qui peuvent être connexes en fait à ton activité principale. Disons que quand tu as ton site internet, bon, tu as ton menu en haut et tu as des pages. Donc, les pages, c'est vraiment le socle de ton site internet où tu vas parler de tes prestations, tu vas parler peut-être de tes réalisations, de tes tarifs si tu les affiches. Voilà, c'est le socle vraiment de les fondations en fait de ton site. Mais après, pour pouvoir rédiger des contenus qui sont différents, pour pouvoir répondre aux questions des internautes sur ton sujet, pour pouvoir vraiment rester dans ton sujet, mais un peu plus vaste, il te faut une section blog. Si t'as pas la section blog, tu vas être très limité en termes de possibilités en référencement naturel. Pour moi, c'est vraiment la clé, même si je trouve que le mot blog est un peu connoté de manière négative.
C'est vrai.
Tu vois, on le voit un peu comme le blog, bah, c'est un passe-temps, mais là, on ne parle pas d'un Skyblog des années 2000, quoi.
C'est vrai. Non, mais c'est bien parce qu'on a tellement tendance à entendre et lire partout, genre le blogging est mort, ça ne sert à rien d'avoir un blog. Moi, j'ai les deux, tu vois, j'ai mon blog, j'ai mon podcast et je ne compte pas arrêter ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que c'est bien que tu mentionnes que finalement, c'est un atout quand on veut être bien placé sur Google d'avoir cette partie blog.
Ah oui. Pour moi, c'est vraiment… je sais que j'ai des clientes, tu vois, qui peuvent être réticentes au début. Par exemple, elles ont une boutique, un e-shop, et elles me disent « Oh non, on ne va pas faire un blog ». Mais si, tu vas faire un blog et tu vas voir, c'est là, les gens vont arriver par cette section-là. Les gens vont se poser des questions, par exemple, un e-shop, tu vois, ils vont peut-être se poser la question, mais comment choisir un jean selon sa morphologie? Je dis une bêtise. Et voilà, elles vont tomber sur ton article. Et puis toi, derrière, comme par hasard, tu proposes le fameux jean qui va à la morphologie en 8, quoi. Ah bah voilà, merveilleux, vendu.
Ouais, c'est vrai que vu sous cet angle, effectivement, c'est
pareil. Voilà, le tout, c'est de savoir quoi rédiger, dans quelle intention, pourquoi, enfin, toute la stratégie autour. Mais le blog, oui, vraiment, blog, 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 on y va.
Et puisqu'on parle de blog, est-ce qu'il y a des pages indispensables selon toi, hormis le blog sur un site?
Voilà, hormis la section blog, oui, la page à propos est à soigner particulièrement. C'est pas la page à propos, c'est pas là pour que tu dévoiles ton CV, c'est pas la page CV, quoi, hein, la page à propos. Par contre, c'est vraiment l'occasion de parler de ce qui fait sens pour toi, qui tu es, pourquoi, à qui tu t'adresses et pour connecter, en fait, avec les internautes. C'est la deuxième page qui est la plus consultée sur un site internet, après la page d'accueil, évidemment. Donc, vraiment, un soin particulier sur la page à propos. Et si tu es un peu perdu sur cette page pour savoir quoi rédiger, bah dis-toi juste, toi, quand tu vas voir un site internet et que tu cliques sur la fameuse page « Qui suis-je ? Qui sommes-nous ?» ou « À propos », qu'est-ce que tu aimes lire, quoi ? Et souvent, tu aimes lire des choses où il y a de l'humain, où ça te permet de connecter. Donc voilà, pour moi, la page à propos est essentielle. Et puis après, ça dépend de ce que tu fais. Mais bon, une page d'accueil engageante, aérée, ça c'est un important aussi. Voilà, aéré. Tu peux très bien pas avoir un super web design et c'est pas grave, mais il faut que voilà, la page d'accueil soit engageante et comme quand tu dis bonjour à quelqu'un, quoi. Si tu fais un grand sourire et que tu ouvres les bras, tout va bien. Si tu fais la gueule, la page d'accueil, c'est pareil.
C'est vrai. Et finalement, on n'a pas besoin d'énormément de pages sur notre site, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Une page d'accueil, une page à propos, une section blog, peut-être une page service. Pour service ou produit, et puis éventuellement une page contact.
Oui.
Et c'est tout.
Pour moi, le socle de n'importe quel site internet, ça va être, on va dire 4-5 pages. Page d'accueil, page à propos, à travailler avec soin, page service, prestation, réalisation, produit, en fonction de ce que tu fais, la section blog, et en effet, comme tu dis, la page contact. Ça se résume à ça. Après, si tu veux créer d'autres contenus, fais-le dans ta section blog. Sinon, après, tu perds un peu le fil pour les gens qui arrivent.
Et puis du coup, tu es podcasteuse aussi, mais oui. Je te pose la question pour que ça puisse parler à plus de monde. Est-ce que tu recommandes de faire des retranscriptions de ces épisodes de podcast ?
Alors, je pense que c'est une technique, oui, qui peut vraiment être intéressante. Moi, je ne le fais pas, clairement.
Non, mais c'est bien que tu le dises.
Oui, mais c'est un choix et c'est parce que là, c'est une histoire de temps et oui. Voilà, je n'ai pas le temps, moi, de le faire. Mais je pense que c'est une bonne idée. Parce que les gens consomment sur des formats différents. Donc voilà, toi, tu parles podcast et puis tu as une super formation sur le sujet d'ailleurs. et c'est hyper intéressant parce que les gens aiment écouter. En plus, on arrive vraiment à connecter avec la voix, avec les intonations, etc. C'est super. Par contre, des retranscriptions de texte, c'est aussi ultra intéressant parce que parfois, les gens ne peuvent pas écouter. En fait, non, pas forcément ça. Et puis, ils sont plus à l'aise à parcourir, à lire en travers. Et puis, pour le référencement naturel, ça peut servir aussi. Donc, c'est à ne pas négliger. Ça peut être une source d'idées de texte aussi à rédiger. Ouais. Donc, là, pour moi, c'est une bonne idée et tout le monde ne le fait pas. Donc, ça peut vraiment faire la différence aussi.
Ok, super. Bon, on a parlé tout à l'heure de mots-clés. Donc, le mot-clé, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un terme principal. Alors, c'est soit un mot, soit une combinaison de mots qui vont être mis en avant sur une page, sur un article, etc. Et donc, tu as partagé une astuce dans un live qui consistait à mettre le mot « meilleur » et ensuite notre métier pour être première sur Google et arriver. Alors, je sais que tu as eu des petites objections du type « Oui, mais c'est peut-être un peu arrogant de mettre le mot « meilleur ». Par exemple, moi, meilleure formatrice en podcast. » Donc, je vais avoir un peu ton ressenti là-dessus. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée de se placer sur ce mot-clé-là parce que finalement, il n'est pas hyper exploité, quoi.
Voilà. Alors, donc oui, mais du coup, je vois que tu as vu cette vidéo, donc super. c'est vrai que cette astuce-là, moi, c'est une astuce que je recommande à tout le monde, en fait, de créer une page, enfin un article, du coup, dans ta section blog, puisque maintenant, tu as une section blog.
Voilà.
et tu te positionnes sur le mot-clé « meilleur plus le nom de ton activité » et, si nécessaire, « meilleur plus le nom de ton activité plus la ville, enfin la localité, quand il y a un intérêt ». L'objection que j'entends beaucoup, c'est oui, mais je ne peux pas le faire parce que, en effet, mais je peux pas dire que je suis la meilleure. Je peux pas dire que je suis la meilleure web designer. Je peux pas dire que je suis la meilleure formatrice en podcast. Mais écoute, si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire pour toi et ça sera cette autre personne qui prendra le trafic. Donc, si, fais-le. Et en plus, je pense qu'il y a aussi une histoire d'angle. Quand tu crées ton contenu, justement pour, par exemple, meilleure formatrice podcast. Tu n'es pas obligé de... Enfin, après, c'est comme toi, t'as envie, en fait. C'est soit vraiment tu écris en disant « Bon, j'ai regardé ce que font les autres et selon les avis de mes élèves, je suis la meilleure formatrice en podcast. » Et alors là, bon, tu vois, quelque part, c'est pas toi qui le dis directement, c'est les élèves qui disent que...
C'est vrai.
Mais, voilà. Mais toi, tu le places comme ça. Ou alors, il y a d'autres techniques aussi. Enfin, ce que je peux conseiller, c'est de... tu sais, un peu comme quand tu cherches un produit, mais un produit physique, tu vas faire la liste des trois meilleurs services de web design, par exemple, si tu es dans le web design. Et puis, toi, tu vas te positionner dans le résultat numéro 1, voilà, dans les trois propositions que tu vas faire. Moi, je vois pas ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment une astuce qui est très pertinente et d'autant que ces temps-ci et encore plus à venir sur Google, les gens, les internautes ont tendance à chercher des avis. Donc, soit avis plus le nom de ton activité, soit meilleur plus le nom de ton activité, ça peut vraiment te drainer du trafic et du trafic qualifié. Quelqu'un qui cherche la meilleure, voilà, c'est qu'il a une intention derrière. Pourquoi est-ce qu'il veut la meilleure ? Probablement parce qu'il veut se faire accompagner par la meilleure ou acheter un produit de la meilleure. Et en ce sens, c'est pertinent à faire. Et ce que je me dis, les personnes qui ne veulent pas créer de contenu autour de ça, ben c'est OK. Voyez, il y a plus de place pour les autres.
Complètement. Mais c'est assez convaincant. Je vais y réfléchir, très sérieusement. Est-ce que tu as d'autres petites astuces ou une autre astuce ou une bonne pratique à nous partager en plus de cette super astuce de mots-clés pour être pour se placer sur Google en première position ou en tout cas sur la première page?
Sur la première page, moi, je pense, je vais revenir encore sur les mots-clés, même si c'est stratégiquement un peu long. Je pense, je vais parler de la stratégie de la longue traîne. Alors, je vais resituer du coup ce que c'est. La stratégie de la longue traîne, c'est de choisir de se positionner sur un mot-clé qui va être très spécifique plutôt que trop générique. par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire quand même ? Donne-moi une idée, Safia, d'exemple de thématique. On va changer un peu.
La cuisine, voilà. Des recettes, par exemple.
Voilà. Alors, il vaut mieux. La stratégie de long terme, ça voudrait dire qu'il vaudrait mieux se placer sur idées de recettes de cuisine quand on n'a plus rien dans le frigo que sur idées recettes.
Ouais.
En fait, typiquement, plus tu vas être spécifique, plus tu vas pouvoir te positionner rapidement, entre guillemets, dans les résultats de Google. Des sites sur des idées de recettes, il y en a déjà à l'appel.
Ouais.
Voilà, donc c'est difficile de venir se loger entre les premiers résultats. En revanche, plus tu es spécifique, plus tu choisis des mots-clés finalement qui sont peut-être moins saisis en volume de recherche par mois, mais qui sont plus spécifiques, plus tu as de chances de te positionner et de sortir du lot sur Google.
Est-ce qu'il y a une limite, parce que du coup, sur le mot-clé de longue traîne, est-ce qu'il y a une limite de mots, par exemple ?
Alors, il y a rien, si tu veux, qui est figé. Par contre, en termes de bonne pratique, déjà, quand tu es à 5 mots, c'est pas mal, quoi. 5, ouais. 6 mots, voilà. Au-delà, c'est très, 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 très spécifique et c'est pas forcément plus pertinent. Mais voilà. Dans l'idée, par exemple, idée de recette, ou même plus que idée de recette, tu vas chercher un peu plus loin. Idée de recette, vegan, idée de recette vegan et sucrée. Enfin, voilà, il faut vraiment venir chercher de la spécificité. Et c'est en tout cas une technique qui est vraiment intéressante pour avoir quelques articles déjà qui se positionnent.
Et du coup, ton mot-clé de longue traîne, tu le mets à quel endroit de ton article ? Quel pourcentage aussi ? Est-ce que tu le répètes plusieurs fois ? Est-ce que 2-3 fois, ça suffit ?
Ça dépend de la longueur de ton texte. Mais oui, il faut se dire que quand toi, tu vas rédiger ton texte, tu as ton idée de mot-clé. Donc, idée recette vegan, par exemple. Mm-hmm. Tu as choisi idée de recette vegan. On va chercher quelque chose de plus spécifique. Là. Bon, ça me paraît un peu large, mais c'est pas grave. On va rester là-dessus. Idée de recette vegan. Si tu écris un texte qui fait 500-600 mots, c'est 2 pages à 4 à peu près. De texte, il faudrait le dire au moins 3-4 fois.
D'accord. Il ne faut pas le faire trop de fois non plus, c'est pas bien.
Non. Voilà, il ne faut pas suroptimiser parce que déjà d'une, c'est désagréable pour l'internaute. Tu le vois tout de suite quand il y a des textes qui sont très... Il y a quelque chose qui ne va pas, tu trouves que c'est très, très, très redondant, c'est qu'il y a une suroptimisation. Et après, donc, tu as vraiment le mot-clé principal, donc idée recette vegan, par exemple, mais tu as aussi les mots-clés secondaires. Et ça, admettons, sur un texte de 300 mots, tu vas écrire 3 fois dans ton texte « idée recette vegan », et bien peut-être qu'à un autre endroit dans ton texte, tu ne diras pas « idée recette vegan », mais tu diras « menu du jour vegan »,« menu du jour sans viande », enfin voilà, tu vas alterner, en fait. Il faut que tu utilises des synonymes ou des mots qui restent dans le champ lexical. Donc, on ne fait jamais de bourrage de mots-clés, jamais, jamais, jamais. C'est mal. Mais il faut quand même à minima que Google comprenne ce que l'on dit, et donc il faut que les mots-clés soient dans le texte, mais aussi dans le titre et dans les sous-titres.
Ok, super. Qu'est-ce que tu penses de l'extension Yoast SEO pour les utilisatrices de WordPress ?
Je trouve que cette extension Yoast, elle est hyper intéressante et pratique quand tu commences à rédiger, quand tu n'es pas à l'aise justement avec les principes SEO. Ça te donne des indicateurs qui sont intéressants. Toutefois, on a vite fait de tomber dans le mauvais travers qui est « je veux tout le temps avoir les feux verts » parce que dans Yoast, il y a un système de feux, feu rouge, feu vert, feu orange. Et en tant que bonne élève, on a tout le temps envie d'avoir les feux verts.
C'est vrai, je suis passée par là.
Et tu plaides coupable alors.
Oui.
Mais en fait, dans les faits, non, c'est pas. Je pense que c'est une extension qui est intéressante au début pour prendre des bonnes pratiques. Après, il faut pas tout respecter à la lettre. C'est une machine en fait. Donc là, c'est des données chiffrées et ça remplacera jamais l'humain et ta compréhension humaine.
Donc, c'est OK de ne pas toujours suivre les indications de cet outil.
Oui, tout à fait. Et je dirais même, parce que tu vois, par exemple, sur les mots-clés Yoast SEO, c'est une machine, quoi. Donc, si on prend idée recette vegan, il faudrait que ça soit écrit tout le temps idée recette vegan et pas idée de recette pour vegan. Sauf ouais. que toi, dans le langage écrit et parlé, tu vas dire « j'ai besoin d'une idée de recette pour un menu vegan ». Donc, tu vas rajouter des articles de liaison, des choses comme ça. Donc, en ça, il ne faut pas écouter Yoast SEO tout le temps. Ça va donner des bonnes pratiques, mais par contre, il faut garder en tête vraiment que tu écris pour un humain et que c'est l'humain qui fera l'action derrière, soit de mettre un objet dans le panier ou d'acheter un produit ou de te contacter. C'est pas Google, donc voilà. Faire un joyeux mix.
Ok, super. En tout cas, je suis contente que tu partages toutes ces astuces. Alors, ça peut paraître être beaucoup de travail, mais personnellement, je pars du principe qu'on ne peut pas compter sur les réseaux sociaux et que, quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir une plateforme qui nous appartient avec notre contenu où on va pouvoir finalement continuer à communiquer avec notre audience. Donc, je trouve que c'est bien que tu mettes en avant le référencement comme ça, tu vois, qu'on arrête de se dire je vais faire des petites publications Instagram, je vais faire des petites stories, je vais faire des reels, je vais faire, je sais pas, des tweets et des trucs Facebook. C'est bien, mais je pense que c'est pas la priorité et que le référencement, ça vaut le temps investi, on va dire.
Oui. Pour moi, dans ma vision, en tout cas, le référencement, si tu veux, c'est, si on reprend l'exemple d'une maison, enfin de ton entreprise, c'est les fondations, c'est les fondements, parce que ton réseau social, t'es pas à l'abri d'avoir moins de visibilité. Alors, je suis pas du tout experte sur Insta, etc. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des changements là récemment d'algorithme, mais du coup, c'est la panique à bord. Bon, moi, ça me parle pas, mais je veux bien croire, d'accord. Et tu vois, c'est ça le risque en fait, quand, comme tu dis, t'es pas chez toi. Quand tu es sur un réseau social, quand tu as ton site internet, déjà, tu écris ce que tu veux. Vraiment, tu t'exprimes, ça t'appartient, quoi. Donc, tu fais ce que tu as envie avec ton site internet. Et en plus, les actions que tu mets sur ton site internet, même si ça te paraît plus long de rédiger un texte, voilà, c'est dans les premiers textes que tu rédiges et ça te paraît long de rédiger 2000 mots, ça va te prendre, je sais pas, 3-4 heures. Mais les 3-4 heures sur Instagram, tu vas les passer à faire autre chose. Et sur Instagram, ça va durer 24 heures, 48 heures peut-être. Sur ton site internet, ça dure des années. Et c'est là où c'est ouais. la vraie différence en fait.
Complètement. C'est vrai que c'est, en fait, il faut voir sur le long terme. Et faut oublier toutes ces histoires de j'aime, d'abonnés, de machin, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Et tout à fait. Pour en parler un peu, enfin, toute la partie référencement, je pense qu'on a donné plein d'astuces très pratiques et très concrètes que mes auditrices vont pouvoir mettre en place tout de suite. Mais j'avais envie de parler aussi de toi, de ton métier, enfin, de la partie entrepreneur de ta vie. Okay. Du coup, tu es aussi très active sur Instagram.
Oui.
Tu partages beaucoup d'astuces, tu fais beaucoup de lives, t'as pas énormément d'abonnés et pourtant, ça cartonne. Donc, j'ai envie que tu nous en parles un peu plus parce que j'ai envie de montrer aux gens que c'est pas parce que vous avez 200, 300 abonnés que personne vous écoute et personne s'intéresse à ce que vous faites. Parce que moi, il y a plein de gens qui me disent, j'ai pas commencé à parler de mes services parce que là, il n'y a pas encore assez de monde. Donc, je vais attendre un peu. Donc, j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus.
Oui. Je pense que, alors, pour t'expliquer un petit peu, en tout cas, là, je parle de mon expérience à moi et ça fera écho probablement à d'autres. Moi, j'ai lancé mon compte Instagram parce que ça me faisait plaisir et que je n'avais pas de compte Instagram avant, à titre personnel. Voilà, je suis pas trop réseaux sociaux en fait, et je voyais pas l'intérêt. J'avais du mal, j'avais pas envie d'afficher ma vie personnelle, en tout cas, voilà. Et donc j'ai lancé le compte Instagram et là j'ai découvert les stories et je me suis dit mais c'est trop drôle ça, j'adore. Et je sais pas, ça m'a plu pour le côté. Spontanéité, authenticité, échange. Et donc, du coup, j'ai pris le parti de me dire, OK, ce réseau social-là, moi, je vais m'amuser dessus. Je vais me montrer telle que je suis. Et puis, voilà, les gens qui voudront me suivront. Je trouve qu'Instagram, c'est assez bienveillant quand même aussi. C'est pas trop, ça me semble pas trop protocolaire, donc ça me plaît bien. Et en effet, là, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Bon, c'est pas extraordinaire, mais
c'est déjà pas mal. Attends, je crois que je me suis abonnée, t'en avais 500 ou quelque chose comme ça.
Oui.
Donc c'est bien, c'est cool.
C'est ça, c'est allé vite. Et en fait, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, finalement, même je suis en train de réfléchir. La première cliente que j'ai eue sur Instagram, enfin via Instagram en tout cas, je pense que je devais être à 150 abonnés ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre exact, mais en fait, pour moi, c'était. J'ai utilisé Instagram donc pour m'amuser, pour montrer qui je suis, ce que je faisais, pour parler de référencement naturel parce que j'adore ça.
Ça se voit.
Et ouais, je pense. Oui. Et du coup, voilà, je me suis dit de toute façon, si les gens connectent avec qui je suis et comprennent ce que je raconte sur le référencement naturel, si j'arrive à démystifier un peu ça, si j'arrive à vulgariser ça et que les gens ont envie d'en savoir plus, bah, ils me demanderont et voilà, et on verra ce que ça donne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, y a pas besoin d'attendre d'avoir tant de personnes pour communiquer. Il n'y a pas besoin d'attendre. On n'attend pas. Si tu as des choses à dire, tu le dis. Et puis voilà, ça servira en plus aux gens qui. Même si tu as 100 abonnés, peut-être que sur les 100 abonnés, tu as une personne qui va se dire mais c'est génial ce qu'a fait cette nana-là. Je vais la contacter. Et on ne sait pas.
Tout à fait. Et ce que je retiens aussi, c'est que tu as mentionné le fait que tu faisais les choses par plaisir et que tu ne te forçais pas. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on a tendance à penser stratégie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais on ne pense pas à nous et ce qu'on ressent par rapport à toutes les actions qu'on met en place.
Oui, bah pour moi, c'était essentiel parce que justement, sur mon activité d'entrepreneur, j'ai été sur des phases où j'étais débordée. Ça allait très vite pour moi avec du recul et du coup je me suis retrouvée débordée certains mois vraiment à rédiger toute la journée, à faire de la stratégie, à répondre aux mails des clients, à être complètement débordée. Et quand j'ai repositionné ça et que j'ai été au clair avec moi et que je me suis dit tiens je vais ouvrir un compte Instagram, je me suis dit je vais le faire parce que je trouve ça rigolo et moi je suis très joueuse en fait et je ne veux pas perdre de vue ce qui me fait plaisir. Et ce qui me fait plaisir, bah, c'est le jeu, en fait, l'amusement. Et donc, je vois Instagram comme un amusement. Et pour la partie plus lourde, entre guillemets, qui ne m'amuse pas, par exemple, moi, je ne suis pas du tout douée en design, en création graphique, pas du tout, du tout. Donc, je délègue, en fait. Ouais. Et j'ai pris le parti de le faire un mois après avoir ouvert mon compte Instagram. Voilà.
Ah oui. Donc, tu n'as pas hésité, quoi.
Non. Non, je me suis dit, moi, je veux m'amuser. Je veux vraiment le garder en tant que fun. Donc, je délègue et puis on verra. Et au pire, quand même, ça n'aurait pas fonctionné, entre guillemets, personne ne se serait intéressé à ce que j'aurais fait, bah, c'est pas grave. Au moins, je dirais ce que je veux dire avec le cœur et voilà.
Comme quoi, quand tu fais les choses parce que tu as envie de les faire et que ça te fait plaisir, ça marche tout le temps parce que tu dégages quelque chose de différent, une énergie qui est positive et qui va attirer finalement les bonnes personnes.
C'est ça.
Et ce que je trouve dingue, c'est que sur ce mois de janvier qui n'est même pas terminé, tu as fait plus de 130 000 euros de devis.
Oui.
Genre, what?
Oui. Oui, oui, mais c'est... Quand j'ai vu que j'avais édité 136 000 euros de devis, depuis ça a augmenté encore, mais on reste sur ce chiffre-là, je garde le suspense. Quand j'ai vu que j'ai édité 136 000 euros de devis, en fait, dans ma tête, c'est un peu bizarre, tu vois, je me suis dit... 136 000, je ne les ai pas vus passer. Voilà. Dans le sens où... Ouais. Bah oui, parce que en fait, comment ça se passe ? Donc, c'est sur mon produit. Moi, j'ai un produit principal, on en a parlé, qui est première sur Google. Donc, c'est un accompagnement. Et après, j'ai une formation en ligne. Voilà, ce sont les seuls services, en fait.
C'est une formation pour... tu parles de la formation pour monétiser son site ?
Non, je parle de visibilité maximale sur Google.
Ah oui, je l'ai vu, oui.
Ouais, ça c'est la formation principale. Et comment monétiser son site, c'est une formation secondaire qui est un bonus aussi de la formation principale. Voilà.
Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui vont vouloir travailler en one-on-one avec toi, il y en a d'autres qui vont vouloir faire les choses à leur rythme, un peu dans leur coin. Donc il y a le choix quoi, formation ou accompagnement.
C'est ça. C'est soit tu veux apprendre à faire par toi-même et voilà, une formation ça te convient bien. Et puis comme ça tu as des bases. Si jamais tu as des clients qui ont ces besoins-là aussi, tu peux quand même les renseigner parce que j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont sur des métiers du web. Donc voilà, des graphistes justement, des community managers, des coachs. Bon voilà. Et donc, si tu veux faire par toi-même, bah, tu as la formation. Moi, je te montre tout de A à Z. Et si, en revanche, eh bien, tu veux passer la vitesse supérieure aussi et que tu es prête à déléguer et que tu as envie que ça fonctionne et que tu me fais confiance et que bah, voilà, bah, c'est feu, c'est première sur Google.
Du coup, les places sont limitées pour celui-là.
Alors, j'allais dire, c'est pas que les places sont limitées, c'est que moi, j'ajuste auprès de mon équipe. Je travaille avec une équipe de killeuses du SEO, comme je les appelle. Ce sont des freelances.
Ouais.
Et peut-être que ça changera sur les mois à venir. On va voir comment ça se passe. Ouais, voilà. J'ai une collaboratrice très proche qui elle est avec moi sur tous les projets. Elle est sur la rédaction SEO. Mm-hmm. Et après, ben, selon les besoins, moi mon rôle c'est aussi de voir quel est le sujet du site web de ma cliente et qui peut travailler dessus. En fait, qui a les compétences. Voilà, j'ai certes. Enfin, certaines personnes vont être très à l'aise, je te dis, à parler sur des trucs lifestyle, voilà, ou sur la mode. Et puis d'autres vont être très à l'aise pour parler de l'architecture. Bon, ben voilà, allons-y. Et mon rôle, c'est aussi ça, c'est du coup d'identifier les bonnes personnes pour travailler sur les bons projets pour que tout fonctionne correctement.
Et du coup, sur tes deux offres, ta formation et ton accompagnement, qu'est-ce qui marche le mieux ?
Pour le moment, je dirais ce qui marche le mieux, c'est première sur Google. Mm-hmm. Donc, c'est mon offre d'accompagnement parce que les gens, je pense que mes clientes me font confiance et elles ont envie de confier leur site internet à une personne, à la meilleure, voilà, tout simplement. Et voilà, moi, j'ai aussi la spécificité, tu vois, Safia, de me positionner comme étant une femme qui accompagne les femmes dans le monde du référencement naturel. Je pense que ça joue aussi parce que, tu vois, il y a aussi ça. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce service ? C'est parce que moi-même, au tout début, quand je connaissais pas trop le référencement naturel, je me suis dit, oh là là, mais j'y comprends rien, j'ai envie que quelqu'un m'aide, que quelqu'un me montre, et de préférence une femme, et j'ai pas trouvé. Quelqu'un qui, en tout cas, dégageait ce que j'avais envie de voir et tout ça. Et je pense que c'est ultra important. Moi, je suis dans cette... Ça fait vraiment sens pour moi d'accompagner les femmes. C'est hyper, hyper important pour moi de contribuer à leur succès. Et je pense que ça se ressent tellement que du coup, l'offre première sur Google aussi, il y a quelque chose qui connecte, quoi.
Ouais. Carrément. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, je te souhaite beaucoup de réussite. Je te l'ai déjà dit, mais j'adore ton énergie. J'adore ce que tu fais. C'est hyper agréable de voir tout ce que tu prépares, comment tu communiques et tout. C'est un plaisir.
Merci. Merci, Safia.
Merci en tout cas pour ton temps et pour tous tes bons conseils. Ce que j'apprécie, c'est que c'était très pratique, très concret et qu'on va pouvoir bien commencer à placer nos petits mots-clés meilleurs nanani sur Google dès aujourd'hui.
Génial, j'espère bien, je vais surveiller.
J'espère que cet échange très riche avec Maïté vous aura plu. Si vous voulez aller découvrir son travail et la suivre sur les différents réseaux, vous avez son podcast qui s'appelle Femmes du Web, son site Maïté Consulting et vous pouvez également la retrouver sur Instagram Maïté Ropers. Je vous mettrai de toute façon toutes ces informations dans la retranscription de l'article sur mon site. Je vous rappelle également de ne pas hésiter à vous inscrire à l'expérience Catching qui est totalement gratuite où 14 entrepreneurs vous partagent 14 stratégies, ça démarre le 8 février. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast. So you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.